En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Il y a chez Norin Chai un enfant qui prie toujours. Né en 1969 à Phnom Penh dans le Cambodge de Norodom Sihanouk, il atterrit en France à l'âge de 4 ans avec un ours en peluche et le désir de sauver le monde. Aujourd'hui vétérinaire de faune sauvage, Norin Chai cultive l'amour de l'autre peut-être à travers les animaux. Que ce soit aux quatre coins de la planète, en Afrique notamment, ou à Paris où il est vétérinaire en chef et directeur adjoint de la ménagerie Le Zoo du Jardin des Plantes, il est toujours question pour lui de respect, d'amour en plus et de souffrance en moins. Et d'ailleurs, entre nous, je pense partir en vacances avec Jungle Doctor qu'il publie chez Larousse. Bonjour Norin Chai.
Bonjour.
Est-ce que vous croyez que l'arrivée du petit gamin de Phnom Penh dans le fauteuil d'en sol majeur, c'est un pur hasard ?
Je ne crois plus maintenant au hasard, mais vraiment à des chemins tracés par une sorte de vocation individuelle ou collective. Mais je pense que la vie nous met des petits lampions comme ça au bord de nos chemins pour arriver là où nous sommes.
Démocratie stonk.
La démocratie est factice.
Liberté stonk.
La liberté odieuse.
Frisch Bracken stonk.
La liberté d'expression répréhensible.
Tomenia, de der Krotze haben in der Welt.
La Tomenia a la plus grande armée du monde.
Der Krotze Navy in der Welt.
La plus grande marine du monde.
Wir sind der Krotze alles und einer du Sacrifice.
Mais pour rester grand, nous devons faire des sacrifices.
C'est comme chambre intérieure.
Avec des images du dictateur version Charlie Chaplin, c'est une des références qui a peuplé le monde de votre enfance, Norin Chai. Est-ce que vous vouliez être dictateur quand vous étiez gamin ?
Non, pas vraiment, non. C'était plutôt l'inverse. J'étais plutôt une personne retirée, toujours par rapport à une certaine différence. Et j'étais toujours aussi du côté de ceux qui étaient opprimés ou ceux qui étaient laissés à part. Oui, effectivement, un peu l'inverse du dictateur.
Vous parlez de différence, de ce sentiment d'être différent et d'être isolé, enfant et adolescent. Vous avez eu d'ailleurs très jeune un monde intérieur assez riche, au point d'écrire à l'âge de 7 ans une sorte de journal intime. Vous avez eu la gentillesse de nous le ramener. C'est dans une enveloppe que vous allez ouvrir. Ah ben non, je veux bien que vous nous fassiez partager cette écriture maladroite. Une écriture d'enfant,
oui.
Avec des mots qui étonnent. Qu'est-ce que vous écriviez à 7 ans ?
Alors, ce petit livre, en fait, ça s'appelait un livre du Cambodge. Ce n'était pas un journal, vraiment. Je l'ai découvert par hasard en rangeant mon petit bazar. Et je l'ai écrit, en fait, je me rappelle, quand nous vivions à Chevaleret, dans le 13e.
À Paris,
où nous étions ensilés, c'est le mot, avec ma grand-mère, mes tantes, mes oncles. Et il manquait mon grand-père. Et tout le temps, mes parents disaient « Oui, ben, il va revenir. » Et je crois que, dans mes souvenirs, tous les ans, il y avait des arrivées d'immigrants, dont des Cambodgiens. Et à chaque fois, il y avait la liste des personnes qui étaient arrivées. Et à chaque fois, nous, on y allait pour voir s'il y avait le nom de mon grand-père sur la liste. Et il n'y avait pas. Et donc, j'avais écrit ce petit truc-là, comme ça.
Il faut sauver le Cambodge, et vite. Il y a une fille qui s'appelait Aswa. Elle nous manque beaucoup, même très beaucoup. C'est très urgent. Il faut attaquer les communistes. Les communistes sont fous. Il faut rattraper le temps perdu. C'est dur, la vie, très dure. Mais il faut quand même travailler, beaucoup, très beaucoup, pour sauver le Cambodge.
C'est un petit garçon de 7 ans qui écrit « Il faut sauver le Cambodge ». Et à la fin de ce texte que vous avez du mal à lire, je peux le comprendre, Norin Chai, vous avez fait un dessin qui montre quoi ?
Qui montre un petit enfant qui tue un Khmer Rouge.
Alors parmi les secrets, parce qu'un petit peu plus loin dans votre texte, vous parlez de secrets, vous dites qu'il y a beaucoup de secrets.
Oui, il y a pas mal de secrets. C'est que mes parents, en fait, ont toujours voulu que j'évite de parler de nos origines. Mais surtout, en fait, ils nous ont toujours dit que nous étions différents. Et cette idée de dire qu'un jour ou l'autre, de toute façon, on ne va pas rester ici, on retournera au Cambodge.
Donc si je comprends bien, Norin Chai, on ne parlait de pas grand-chose à la maison, surtout pas du Cambodge, sans doute pas des Khmers rouges qu'il avait fallu fuir, ni de ce grand-père laissé derrière, mais en même temps, au-delà du langage, au-delà de ce que les parents ne transmettaient pas, vous aviez apparemment, on en juge par ce dessin et par ce petit journal intime, intériorisé quelque chose de la souffrance collective.
C'est exactement ça. Quand on est enfant, vous savez, on est une sorte d'éponge. Je percevais ce contraste entre l'extérieur, où il y avait une sorte de souffrance permanente, donc une certaine pesanteur, et à l'inverse, j'avais l'impression d'être tout le temps joyeux. Donc il y avait ce contraste qui, peut-être, qui me travaillait intérieurement, effectivement.
Vous décrivez notamment, vous dites « je sentais qu'il y avait une tension, je sentais qu'il y avait des conflits », vous observez beaucoup votre mère, hein, notamment, et vous décrivez les... Alors dans un texte inédit, que j'ai eu la chance de lire, que vous avez intitulé « La méditation de l'ours », pourquoi ce titre d'ailleurs ?
L'ours représente mon ours en peluche.
D'accord, on va y revenir. Vous décrivez les difficiles conditions de vie de vos parents qui ont toujours serré les dents pour joindre les deux bouts. Si je vous dis « Vers sur Marne », en banlieue parisienne, quelles sont les images qui vous reviennent immédiatement ?
De la souffrance. Mais mes parents nous avaient laissés, mon frère et moi, dans une famille parce qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de nous, parce qu'il fallait qu'ils travaillent. Et notre séjour là-bas n'était pas vraiment un souvenir réconfortant et agréable. Un épisode que je me souviens encore, c'est lorsqu'ils avaient pris mon ours en peluche, c'est mon ours en peluche quand même, et qu'il avait ligoté et frappé devant moi, c'était un peu bizarre.
D'autant que cet ours en peluche était extrêmement important. Alors, présentez-nous cette peluche pas ordinaire pour vous, Norin Chai.
Alors, je vous présente mon ami, Yabumba. C'est mon ours qui m'avait été offert par mon grand-père.
À Phnom Penh ?
À Phnom Penh. Et qui m'a toujours accompagné. Et...
Il est toujours là, toujours... Votre ours en peluche, c'est ce grand-père, en fait.
Oui, c'est ça. C'est mon ange gardien, c'est mon oreille, c'est mon conseiller, c'est mon confident, c'est ma lanterne, mon lampion, ma boussole, c'est ma vocation aussi, effectivement.
C'est la dernière chose qui vous reste du Cambodge, ou la seule même peut-être.
C'est bien vu, effectivement, je ne m'étais jamais posé la question, mais c'est la seule chose qui me reste du Cambodge, effectivement.
Offert par un grand-père, alors qui était ce grand-père ?
Alors, objectivement, mon grand-père était ministre des Travaux publics. Il a reçu la Légion d'honneur de la main directe du président général Charles de Gaulle à Phnom Penh. Et le seul événement de sa vie que je connais, c'est qu'il s'est saoulé le soir du mariage de ma mère.
De désespoir amoureux ?
De désespoir tout court, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que ma mère m'a raconté. Et c'est tout ce que je sais de lui.
Bon, et évidemment, ce grand-père faisant partie de l'élite, il a été l'une des victimes des Khmers rouges.
Oui, notre famille était les cibles privilégiées du régime. Oui.
Votre désir d'être vétérinaire, est-ce qu'il commence, vous diriez, avant les mots, Norin Chai ?
Moi, je dirais presque tout commence avant les mots.
Mais votre amour des animaux commence quand ?
C'est même plus un amour, je pense que c'est une sorte de fusion, d'harmonie avec eux. Je ne sais pas comment vous dire, je ne les aime pas, mais c'est juste qu'ils font partie de moi.
Akom. Arche de Noé.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette image biblique pour vous ? L'arche de Noé, ça représente quoi ?
L'arche de Noé représente un film de du 20th century.
D'accord.
Non, pas plus que ça.
Avec le lion qui rugit
ça.
Quand même.
C'est ça. Non, c'est pas ma culture. Je trouve ça joli comme histoire, mais ça ne me touche pas plus, non.
Je vais quand même l'utiliser, cette image, parce qu'elle m'arrange pour un sol majeur. Votre arche de Noé, Norin Chai, commence donc avec un ours en peluche, Oui, c'est juste une métaphore, mais... Et elle se poursuit pour vous en aventure absolument insolite, émouvante souvent, avec des orangs-outans ou des crocodiles. Alors, d'abord, un petit mot de votre passage en Afrique, et notamment au Tchad, où la faune avait été dévastée après les guerres civiles de la fin des années 70. Vous avez travaillé notamment à la réhabilitation du parc national de Manda. Expliquez-nous ce que vous avez fait là-bas.
Au Tchad, c'était mon premier poste. Donc, à 25 ans, j'ai été balancé directeur d'un parc national en Afrique. Et j'étais donc, j'avais un budget du ministère des Affaires étrangères pour réhabiliter un parc national, c'est-à-dire associer une composante de conservation, donc de gestion des populations animales, et une composante de développement social et économique. Donc dans ce sens, j'avais construit des dispensaires, on avait élaboré un circuit économique d'apiculture, de mangue séchée, on formait des éco-rangers qui étaient des villageois locaux.
Il y avait un lien un peu magique, hein, je dirais, entre vous et, je ne sais pas si on peut dire cette terre tchadienne, mais entre vous et cet environnement et les habitants qui entouraient ce parc national, non ? Vous êtes allé bien au-delà dans l'investissement que la question de mémoire de DESS pour lequel vous étiez là.
Oui, tout à fait. Il me semble inconcevable de travailler avec des gens sans les connaître aussi bien dans leur culture, mais aussi dans leur mode de vie quotidienne. Vous ne pouvez pas imposer des règles de gestion et de nutrition, même sans savoir leurs propres coutumes. Et donc du coup, j'allais bien au-delà du simple coopérant. J'allais vivre avec eux, je dormais avec eux, je mangeais avec eux. Et je tissais comme ça des liens de confiance et de respect mutuel. Et avec ces liens humains, on a pu monter un projet, ce qu'on appelle en anglais « sustainable », durable.
Avant l'heure.
Avant l'heure, effectivement. C'était plus de 20 ans, 25 ans, ça ne nous rajeunit pas. avant qu'on parle justement de façon presque éculée maintenant de développement durable.
Alors Manda, ce n'était pas seulement un parc dans votre vie à vous.
Non, Manda n'était pas seulement un parc, c'était le nom de mon premier vrai, du coup, animal domestique, qui est une hyène rayée.
Ah, alors ça offusque hein, d'avoir pour animal domestique une hyène rayée. Enfin, rayée, c'est pas le problème.
Hein, non, rayée, c'est pas le problème. C'est pas, non, quoique si, parce que les hyènes brunes ou les hyènes tachetées seront beaucoup moins peut-être dociles. Uh-huh. Donc la hyène rayée est relativement docile. Et donc c'était une bébé hyène qui a été prise par un braconnier et qui voulait me la vendre. Donc du coup, était mal tombé puisque le braconnier, je l'ai mis en prison. Et j'ai réquisitionné la hyène.
Avec le sourire, hein ?
Toujours avec le sourire. J'ai reçu aussi, après, a posteriori, des menaces, mais bon.
Mais vous restez zen.
Ah, totalement, ouais. Oui. C'est après.
Vous êtes plus zen qu'Arche de Noé, si je comprends bien.
Je pense, oui.
Depuis les années 2000, vous êtes au Muséum National d'Histoire Naturelle, donc au Jardin des Plantes, comme disaient les enfants. Et dans Jungle Doctor, vous racontez vos émotions de vétérinaire avec une foule d'histoires et un formidable casting animalier. Racontez-nous qui est Nénette.
Oh, Nénette, c'est la, je pense, une des femelles orang-outans la plus âgée en Europe. Elle a 47 ans. Elle provient, en fait, une des rares qui vient de la nature.
Et alors, il faut savoir que vous vous occupez du cœur, au propre et au figuré, Noreen Chahé, car vous faites de la chirurgie cardiaque et vous adorez ça, apparemment.
Alors, la seule chirurgie cardiaque que je fais, c'est sur les grenouilles. Sinon, effectivement, c'est surtout en fait en collaboration avec mon ami et respecté professeur Chedboul, qui est cardiologue à l'école vétérinaire d'Alfort. Et à nous deux, on a monté des projets de recherche sur la cardiologie des animaux sauvages, dont les félins.
Mais dans votre boulot de vétérinaire, c'est la partie que vous préférez, la chirurgie ?
Oui, j'adore la chirurgie.
Pourquoi ?
Parce que c'est pragmatique, c'est concret, et on a tout de suite des résultats, on sauve l'animal, et puis c'est fun. Oh ben moi, j'aime bien opérer, oui.
Ah bon ? Je vais devoir aimer aussi vous opérer, je le sens bien. Vous parlez en tout cas plus de, à propos de votre lien avec l'animal, plus de respect que d'amour. Quels sont les besoins d'un orang-outan, par exemple ?
Les besoins d'un orang-outan sont, au niveau, par exemple, cognitif, donc psychologique, sont extrêmement importants. Il ne vous suffit pas de lui apporter un grand espace aménagé avec des arbres ou même des lianes partout pour qu'il se sente bien. C'est un grand primate, donc il aura besoin de, cet échange psychologique, intellectuel.
Intellectuel ?
Je parle d'intellectuel, oui. Même si ça peut faire sauter... peut-être certains de mes confrères, je parle vraiment d'intelligence. Donc du coup, une conception de soi, de l'autre, ils ont besoin de ça, sinon ils dépriment. Donc c'est ça le respect. Donc voilà, en revanche, si vous ne parlez que d'amour, entre guillemets, vous pouvez vite tomber dans l'anthropomorphisme et dans une certaine forme de projection de soi, sans tenir compte des caractères et de la nature de l'autre.
On tombe dans la possessivité.
On tombe dans la possessivité, dans l'ignorance, et surtout dans une projection de soi que l'on pense être universelle, mais le monde n'est qu'une projection de soi. Et si on fait abstraction du monde des autres, il n'y a plus de respect.
Est-ce que vous pensez que certains animaux aiment la musique, Norin Chai ?
Je pense que la musique, elle est permanente et omniprésente dans le monde. Tout est musique. Les chants des oiseaux, les parades, la communication, le chant des baleines, enfin, tout est musique.
Mais il y a musique et musique, effectivement. Je ne sais pas si votre nénette ou un certain Bonnat, qui était... C'est qui Bonnat ?
C'était un bébé éléphant.
Voilà, que vous avez rencontré en Indonésie. Je ne sais pas s'il pourrait aimer Imagine de John Lennon.
Oh, sûrement, oui.
Bon, bah alors c'est parti, puisque c'est sur votre pick-up en sol majeur. Pourquoi cette chanson de rêveur, de grand rêveur ?
Pourquoi Imagine ? Mon Dieu, mais pourquoi respirons-nous ?
À ce point ?
Oui, c'est une des chansons les plus inspirantes. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
John Lennon en sol majeur, dans un monde de rêveurs, celui de Norin Chai, un jungle docteur né au Cambodge et qui montre patte blanche d'ici 3 minutes.
Le goût du monde en sol majeur. En sol majeur.
majeur.
Norin Choi, née à Phnom Penh il y a 45 ans, souhaite nous raconter comment le chaos s'est transformé en fontaine de sourires, je le cite. Laissant derrière lui l'enfer du régime Khmer Rouge, il arrive en France avec Yabumba, un ours en peluche offert par son grand-père condamné à mort dans la dictature de Pol Pot. Aujourd'hui, Yabumba porte le nom de son association qui a pour vocation l'étude et la préservation de la faune sauvage. Vétérinaire en chef et directeur adjoint de la ménagerie du zoo du Jardin des Plantes à Paris, Norin Choi sillonne le monde, de l'Afrique à l'Asie, en transformant effectivement les petits malheurs en fontaines de sourires, avec un cœur rempli de sagesse orientale, on va y revenir. Par contre, qui a dit « le grillon tient dans le creux de la main, mais on l'entend dans toute la prairie » ?
C'est un proverbe africain.
Camerounais.
Ouais.
Pourquoi vous aimez ce proverbe ?
Parce qu'en fait, on parle souvent d'effets négatifs, de destruction, de dévastation, du mal que l'homme peut faire à lui-même, aux autres ou à la nature. Mais on parle très peu de toutes ces actions minimes, toutes petites, omniprésentes, de bien-être, d'altruisme, de compassion, d'humanité. En fait, ces actions-là sont comme des vibrations d'ailes, de grillons, et on ne fait presque pas attention, mais elles sont omniprésentes. En revanche, si vous vous arrêtez et que vous commencez à faire attention à elles, vous prenez goût, vous participez, vous vibrez avec, et vous vous rendez compte que vos actions deviennent pas simplement individuelles, mais vraiment universelles.
Bon, merci pour cette invitation. On va tenter d'y penser, mais là, assez loin de l'Afrique, je vous emmène là où est passée l'idéologie Khmer Rouge.
À S21, j'étais le secrétaire général du parti. J'avais la responsabilité de la formation. Personne n'osait éduquer à ma place. J'étais l'éducateur. L'essentiel était que j'accepte la ligne du parti. Les personnes arrêtées étaient des ennemis, pas des hommes. Camarades, n'ayez pas de sentiments. Interrogez, torturez. J'ai transféré le langage de tuerie sur le papier en irriguant la pensée de mes subordonnés à S21. J'ai souvent organisé des séances de formation. Cette photo où l'on me voit devant le micro est juste. Regardez mon visage. Ce n'est pas un visage triste. Mais un visage avide d'expliquer l'essence de ce langage. Cette langue de tuerie, de position ferme, de la dictature prolétarienne, c'est moi qui l'ai diffusée à S21. Celui que le parti a arrêté doit être considéré comme un ennemi. N'hésitez pas, ce sont les mots du parti. C'est le parti qui vous guide, c'est moi. Vous hésitez ? Pourquoi ? C'est le parti qui vous guide, le parti c'est moi. Excusez-moi, je fais l'important. Arrêtons là.
Bécom, pays secret, pays d'enfance.
Retour en sol majeur sur ce pays d'enfance, donc le Cambodge, avec la voix à l'instant de Douk, directeur entre 75 et 78 de la cellule S21, véritable machine de mort qui a causé, d'après les archives restantes, la destruction d'au moins 12 400 personnes. Alors Norin Choi, si vous tombez sur ce documentaire inouï, hein, signé Ritipan, est-ce que vous vous installez, vous regardez, ou bien est-ce que vous changez de chaîne ?
Je vais même être plus honnête, je n'ai jamais voulu le regarder. En fait, je n'ai jamais vu un seul documentaire sur les Khmers Rouges.
Pas envie de savoir non plus ?
Savoir si, c'est plus facile de les lire. Donc effectivement, je me suis un peu documenté, mais voir des images, je n'en éprouve pas le besoin.
La question, c'est que faire de cette histoire dont les Cambodgiens, dont vos parents ont très peu parlé ? Il y a plusieurs options. Vous avez choisi quoi, vous, comme option, Norin Choi ? Aller sur place ? Vous faire votre idée dans votre lit ?
Alors, Le Cambodge a été pour moi pendant très longtemps une sorte de Neverland, vous savez, l'île de Peter Pan. Ça existe seulement dans les rêves. Et j'ai mis plus de 30 ans à retourner au Cambodge. Donc je me rappelle exactement la première fois quand j'ai atterri à Phnom Penh, j'étais avec ma mère. Et je lui demandais, mais on est à Phnom Penh là, ça existe vraiment? Et mon premier séjour, qui était très court, on n'a pas fait du tout de visite de musée, encore moins S21. On s'est baladé, on allait voir les temples d'Angkor, et j'ai vu qu'ils existaient. Je n'imaginais pas à quel point c'était aussi beau. Et de là a commencé mon idée de vouloir monter des projets de conservation. Donc je suis resté tout de suite dans mon rôle de veto, et j'ai commencé à monter des projets d'études de faune sauvage au Cambodge. Et je ne me suis pas laissé aller. La deuxième fois, quand je suis allé, j'avais organisé un congrès vétérinaire.
Vous vous planquez derrière votre casquette
c'est ça,
de vétérinaire.
Exactement.
En fait.
Rétrospectivement, je me suis dit, mais je fais tout pour me cacher, pour me protéger. Sauf que dans mon congrès, il y avait un programme social. Et dans le programme social, il y avait la visite de S21. Et en plus, c'est moi-même qui l'ai écrit, ce programme social. Donc du coup, je me suis dit, bon, mais c'est pas moi, c'est dans le programme. Donc du coup, on va y aller. Et là, c'était dur parce qu'en fait, j'ai eu un réflexe. Naïf. Vous savez, dans S21, vous avez des portraits des personnes qui se sont fait torturer. Et les Khmer Rouges avaient cette... je ne sais pas, ça ne peut pas être cynisme, mais cette idée de photographier d'une façon presque standardisée, au millimètre près, leur prochaine victime, en fait. Et mon premier réflexe, c'était de chercher mon grand-père, en fait, que je n'ai pas vu, heureusement. Des années après, je suis retourné à S21. Mais c'était différent. J'avais plus cette nausée, cette envie de juste de m'anéantir moi-même.
De vous anéantir vous-même.
Oui, c'est un sentiment qui est difficilement décrétible. Donc, j'ai pas pu le supporter la première fois. La deuxième fois, j'y suis allé et c'était totalement différent. J'avais un autre sentiment, un sentiment d'universalité, dans le sens où les souffrances que je sentais la première fois dans ces prisons n'étaient plus pesantes. Elles faisaient presque partie de moi. C'est comme si j'avais accepté le fait que toutes ces personnes, aussi bien victimes que bourreaux, eh ben, ça pouvait être moi. J'aurais très bien pu être un bourreau ou victime. Et du coup, cette universalité en fait, humaine, parce que l'humain, c'est pas simplement Martin Luther King ou Gandhi. L'humain, c'est aussi Hitler, c'est aussi Duke, c'est aussi Pol Pot. Et toutes ces personnes aussi extrémistes dans l'un que dans l'autre, font partie de l'humanité. Et c'est ce sentiment d'universalité que j'avais quand j'ai visité S21.
L'une des leçons de cette visite à S21, c'est que désormais, vous ne cherchez plus votre grand-père.
C'est un des plus beaux cadeaux d'S21. C'est effectivement de me dire que je n'ai plus à chercher mon grand-père, parce qu'il est toujours là.
Que veut dire le mot Khmer, Komtesh?
Peut-être détruire, anéantir.
Où est-ce que vous avez entendu ce mot?
Je l'ai entendu tellement de fois dans la bouche de mes parents et de ma mère. c'est un mot qui... on ne cherche pas simplement à tuer ou à éliminer. On cherche juste à détruire. Pas simplement de vie, mais tout ce qui fait de nous, des humains, doit être détruit, anéanti, c'est le mot.
Et votre mère disait ce mot à propos de quoi?
À propos d'eux.
Donc c'était quand même présent à travers des petites scories comme ça, des petits mots
oui,
jetés d'ici et là.
Oui, d'ici et là, entre des mots et des larmes.
Vous en êtes où avec la culture khmer, Norin Chai? Vous n'avez pas l'air coupé tant que ça de cette... Déjà, vous connaissez certains mots
oui.
De cette langue.
Mais je parle khmer, parce que mes parents m'ont toujours parlé en cambodgien, donc du coup je le comprends et je le parle, mais je ne sais ni lire ni écrire. Non, j'ai jamais été coupé, bien sûr. C'est spécial, vous savez, quand vous êtes... Vous êtes déracinés. Tous les Cambodgiens sont pour moi des frères et des sœurs, tellement on est... Enfin, je me sens proche d'eux et loin à la fois. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did,
I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in.
Si j'étais un sculpteur, mais encore une fois, non, ou un homme qui fabrique des potions dans un spectacle forain, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est le mieux que je puisse faire. Mon cadeau est ma chanson, et celle-ci est pour toi. C'est un extrait sur le majeur de Your Song sur RFI, d'Elton John. Vous aimez bien les grands tubes, hein, Norin Chai, des années 70-80, j'ai remarqué ça.
Mais c'est, en fait, ce sont des chansons que j'ai toujours entendues depuis que je suis petit, donc, et elles font vraiment partie de moi, cette chanson-là.
Vous êtes au courant qu'il y a eu les années 2000 qui sont arrivées?
Oui, c'est vrai, oui.
Norin Chai, née au Cambodge, est devenue, par amour d'un ours en pluche, vétérinaire.
Theo, ý bạn, thì cuộc sống của chúng ta có phải là kết quả của sự ngẫu nhiên hay không?
Est-ce qu'à votre avis, notre existence est le fruit du hasard?
Non, je ne crois plus que l'existence soit le fruit du hasard.
Plus?
Plus.
Vous l'avez cru?
Bien sûr. On parle d'incertitude, je l'ai appris à l'école, dans la physique quantique, le principe d'incertitude d'Heisenberg, donc c'est du hasard. Mais, et après, je pense que... Enfin, ça serait un peu présomptueux de dire non, il n'y a pas de hasard. Mais je crois à des grandes lignes qu'on nous trace et que ces grandes lignes sont là pour être suivies.
Vous avez longtemps caché votre spiritualité. Pour quelle raison?
Parce qu'il ne fallait pas. Il fallait pas, en fait, il paraît. J'ai commencé à parler de méditation quand j'avais une dizaine d'années à l'école. Et puis mes profs, j'ai essayé d'en parler aux adultes, donc. Et on me disait de laisser tomber ces histoires et qu'il fallait mieux que je m'amuse et que penser à ça.
Mais vous avez été dans une véritable quête spirituelle.
Oui, parce qu'en fait, au Cambodge ou même dans le cercle familial, on se dit bouddhiste. Mais il y a quelque chose qui ne collait pas, dans le sens où je voyais le bouddhisme qui était pratiqué en tant que religion. Et c'était très bien, mais la spiritualité en tant que telle n'était me semblait absente, en fait. Pour moi, il y a une telle différence entre spiritualité et religion que ça manquait. Les gens, ils vont faire le bien parce qu'ils vont recevoir une récompense, ils vont à la pagode ou à l'église parce qu'il le faut, mais il n'y a pas une véritable culture de soi, de travail sur soi. Et donc, je me suis fait ma petite quête moi-même.
Mais qu'est devenu le bonze alors que vous avez été?
Alors, j'ai été moine, effectivement, dans une certaine vie.
Pendant combien de temps?
Pendant 2 mois. Alors au Cambodge, être moine, c'est la forme la plus haute de reconnaissance qu'un enfant peut faire à ses parents. Et donc être moine, c'était une des formes de reconnaissance, même si être intégré à l'école Veto était aussi la plus haute reconnaissance de mes parents.
Mon enfance, c'était une pièce joyeuse dans un théâtre de sourde souffrance. Je suis un héritier du désespoir de plus de 2 millions de personnes tuées par le régime Khmer Rouge. C'est ce que vous écrivez, Norin Chai, dans La méditation de l'ours, qui reste un texte inédit. Est-ce que vous diriez que c'est le bouddhisme, alors, qui vous a permis de faire avec cet héritage?
C'est le bouddhisme en grande partie, mais c'est aussi toute formation scientifique. Parce que si j'ai pu écrire ça un jour, c'est que justement j'étais infusé de tous ces courants spirituels et scientifiques et philosophiques.
Et en quoi la science vous a aidé
J'ai un exemple très très simple. C'est quand j'ai appris, donc fait mes exercices de physique quantique avec l'équation célèbre E égale MC2. Mm-hmm. Alors vous allez me dire, c'est juste une équation. Mais c'est une véritable bombe spirituelle. Vous avez E, l'énergie, égale, donc égalité, MC2, donc une masse, multipliée par une vitesse, mais on s'en fiche de la vitesse, mais c'est une énergie est égale à une masse. C'est-à-dire que votre table, le micro, votre casque, est égal à une énergie qui est impalpable. Vous voyez où je veux en venir ? Il y a un écho spirituel au niveau religieux, au niveau de Jésus. Oui, au Jésus. Jésus-Christ, lorsqu'il a fait son discours sur le mont des Oliviers, lorsqu'il a dit que Dieu égale amour. À une époque où Dieu était impalpable, inaccessible, lui, il arrive à dire, en fait, non, ce qui est inaccessible, impalpable, invisible, égale amour, un sentiment qui est proprement humain. Vous voyez la corrélation ?
Oui, je commence à voir à qui j'ai affaire. Alors, comme la question du mal est une grande question dans votre vie, dans notre vie, à tous finalement, je suis allée chercher la parole d'Anna Arendt, cette grande femme politique allemande qui a couvert à Jérusalem le fameux procès du responsable nazi Adolf Eichmann, en qui elle voyait l'incarnation de la banalité du mal. C'est une archive de France Télévisions.
Lorsque nous convoquons les gens au tribunal, nous attendons d'eux qu'ils soient responsables. Et nous en avons le droit, juridiquement parlant. Nous en avons le droit car l'autre terme de l'alternative n'est pas le martyr. Il y avait d'un côté comme de l'autre une alternative. Cela s'appelait ne pas participer, juger par soi-même. Je vous en prie. Je ne participe pas à cela. Je ne mets pas ma vie en jeu. Je tente d'échapper. Je cherche comment atteindre l'autre bord, mais je ne participe pas. Et à supposer que je sois contraint de participer, je me suiciderai. Cette possibilité existait. Cela supposait de ne pas dire « nous », de dire « je ».
Lorsque j'ai écrit mon livre sur Eichmann à Jérusalem, l'un de mes principaux objectifs était de détruire la légende de la grandeur du mal, de la force démoniaque. De retirer aux gens l'admiration qu'ils ont pour les grands malfaiteurs comme Richard III.
Alors vous, Noreen Chai, qui avez écrit sur ce mal qui suintait sur les murs de S21 à Phnom Penh, est-ce que vous avez lu Anna Arendt ?
Non, je n'ai pas lu Anna Arendt, je la découvre avec vous.
C'est du lourd, hein ?
C'est du lourd, et je la rejoins un petit peu dans le sens où on sublime des choses, mais c'est un leurre, effectivement. On sublime ça, le mal comme on sublime le bien, et je pense que c'est vrai, il faut avoir une certaine banalité dans ce sentiment. Ce qui est extraordinaire, c'est l'impact des actions qu'on a pu faire sous des régimes ou sous une idéologie. Mais le sentiment de base en lui-même, il est relativement banal.
Est-ce que la notion du bien et du mal fait partie du bouddhisme ?
Non, en fait. On parle plus d'ignorance dans le bouddhisme. Les gens font du mal, entre guillemets, c'est parce qu'ils ignorent.
Ça déresponsabilise un maximum, ça, alors
non ? Au contraire. Ah ouais ? Ben non. C'est parce que si vous ne faites pas de travail sur vous-même, et si vous vous laissez aller en suivant des gourous, des dogmes, vous allez vous laisser finalement influencer et dicter vos propres actions. Donc du coup, vous allez être totalement la marionnette des événements. Et vous allez souffrir, vous allez pleurer, vous allez désirer une autre vie, d'autres politiques, un autre patron ou un autre métier. Alors qu'en fait, dans le bouddhisme, on dit que vous êtes vraiment le maître de vous-même.
On a pu voir d'anciens tortionnaires Khmer Rouge, notamment dans les films de Ritipan que vous prenez soin de ne pas regarder, Noreen Chai, demander aux morts d'effacer le mauvais karma. Est-ce que cette question du karma vous travaille, vous inquiète ? Avec cette histoire d'héritage Khmer Rouge ?
Non, ça ne m'inquiète pas trop. Voire même, après réflexion, je ne vois plus le karma comme une fatalité. Je ne le vois pas comme une fatalité. Il est clair que si vous faites une action, vous aurez des conséquences sur ces actions. Mais il nous reste un degré de liberté. C'est comme je le vois ainsi. On creuse, on sème des actions bonnes ou négatives. On va récolter les fruits. Mais ces fruits-là, on a le choix de les manger ou pas.
En fait. Mais chacun est une page blanche.
Chacun est une page beige.
J comme jardin secret.
Du rhinocéros à Laurent Houtan, Norine Chai, vous avez fait plein de rencontres dans votre vie avec les animaux et pas seulement au Jardin des Plantes à Paris. J'aimerais bien que vous nous racontiez votre rencontre, je crois que c'est du côté du Cambodge, avec un gore.
Ah, oui.
Vous nous dites ce que c'est qu'un gore.
Un gore, c'est un bovin d'Asie, donc. C'est le plus grand bovin sur Terre. C'est même plus grand qu'un bison.
Il est magnifique, hein. Il est noir la plupart du temps.
Ouais, avec des chaussettes blanches.
Des chaussettes blanches.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez tout à fait venir le voir à la ménagerie, parce qu'on a des gores à la ménagerie. Et lors de cette expédition, effectivement, on allait chercher, prélever du gore. Prélever, c'est anesthésier, prélever un tissu pour l'analyser et étudier l'arbre phylogénique de cette population au sein de la famille des bovidés. Nous avons pris le soin de recruter les services de braconniers.
Toujours pareil.
Toujours hein. Pareil, il n'y a qu'eux qui savent le terrain. J'ai appris aussi qu'on allait sur un terrain miné.
Au vrai sens du terme.
Au vrai sens du terme. C'était une zone de no man's land en fait. C'était comme un taré de le faire, mais on est quand même allé. On a suivi les racos, vous voyez par exemple lorsqu'il y a des chemins, au lieu de prendre les chemins, on allait dans les forêts et puis dans les rivières avec nos sacs à dos sur la tête, on allait l'eau jusqu'au torse, donc une vraie expédition pour trouver ces fameux gores. Et on les a trouvés, j'ai préparé ma flèche, tout ça pour anesthésier, jusqu'au moment où le braco me dit « mais tu peux pas les anesthésier ». Comment ça je peux pas les anesthésier? Ben, parce qu'il faut payer le gouvernement pour anesthésier. Mais j'ai toute cette autorisation. Mais non. Alors du coup, on a fait tout ce chemin juste pour les voir. On a quand même eu des crottes, on a pu faire des prélèvements sur les selles et puis faire nos études génétiques dessus.
Un jour, lors d'une conférence sur le monde vétérinaire, vous avez entendu cette phrase « Si le médecin soigne l'homme, le vétérinaire, lui, soigne l'humanité ».
Oui.
Donc derrière votre motivation à vouloir guérir les animaux, il y a quoi exactement?
Je l'ai appris récemment, avec moi-même. Derrière tout ça, c'est l'affinité, c'est de se guérir soi-même. Et guérir soi-même, c'est justement, on parlait de bien et de mal, de guérir soi-même, c'est reconnaître que nous sommes justement ce panel humain entre Hitler et le Dalai Lama, et que sommes tous, justement, qu'on le veuille ou non, ce panel-là, que nous pouvons tous être aussi mal comme aussi vertueux, et reconnaître que c'est un fait, mais aussi reconnaître la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y arriver par le travail, par la méditation, et soigner les animaux, j'en ai fait mon métier, mais c'est aussi une forme de méditation, c'est une forme de quête. Je pense maintenant que c'est qu'une étape, et que soigner les animaux, ça me permet de soigner les êtres vivants, les êtres sensibles, et voilà le lien entre soigner les animaux qui progressivement nous amène à considérer que quelque part nous soignons tous une part d'humanité.
En sol majeur at RFI.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à Norine Chai, un bon karma finalement, et puis la lecture de Jungle Doctor paru chez Larousse, sans oublier un bisou d'été sur la truffe de Yabumba, votre ours en peluche,
oui.
Qui vit toujours avec vous.
Ah ben, plus que jamais, oui.
Plus que jamais.
Ah ben oui.
Vous le soignez aussi ou c'est lui qui vous soigne?
Les deux. J'ai déjà fait des sutures, points de suture parce qu'il commençait un petit peu à se dilater.
On va refermer cet En sol majeur avec un tube et donc un petit Let It Be des Beatles ou bien Hotel California des Eagles. Vous êtes vraiment arrêté aux années 60-70?
En fait, ouais. J'aime les deux. Allez, Let It Be.
Pourquoi?
Parce que Let It Be.
Ainsi soit-il.
C'est ça.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 13h10 temps universel, 15h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain avec le plasticien sénégalais Soli Cissé. À demain. Idée.